je vous invite à lire avec moi notre texte de ce matin qui se trouve dans Apocalypse chapitre 4. Et donc si vous avez une Bible, je vous invite à la sortir et nous lirons tout le chapitre 4. Donc Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1. Et je vais lire dans la Bible second 21. Après cela, je regardais et voici. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième à le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Le livre de l'Apocalypse est, comment dire, pas toujours facile. On va pas se mentir. On ne lit pas l'Apocalypse aussi facilement qu'on lit une BD d'Astérix et Obélix. Et on pourrait même comparer la lecture de ce livre à celle de notre fiche de paye. Il y a plein de chiffres, il y a plein de termes qu'on ne comprend pas toujours. Mais finalement, le seul truc qui compte, c'est cette case en bas à droite où il y a marqué « Montant versé TTC ». Pour l'Apocalypse, cette petite case, c'est le concept tout simple que Jésus revient. Jésus revient. Une idée claire, mais pourtant révolutionnaire. Ainsi, l'Apocalypse nous parle de la fin des temps. The end. Le buzzer final. Le game over. Mais le dernier livre du Nouveau Testament nous raconte pas que cette fin. Il poursuit une logique précise, présentée par Jésus au chapitre 1, verset 19 de l'Apocalypse, où il encourage Jean à écrire « ce que tu as vu » en premier, « ce qui est » en deuxième, et « ce qui va se produire » ensuite. Et ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est tenter de vous montrer que l'Apocalypse parle autant du présent que du futur. Et que les implications sont concrètes pour nous aujourd'hui. Car je pense qu'il peut nous arriver, malheureusement, de présenter la perspective des fins des temps comme de manière un peu trop pessimiste sur le monde présent. Et parfois tellement pessimiste qu'elle n'offre de possibilité qu'à l'action future de Dieu. En gros, on se dit, c'est fichu, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à attendre. Mais dans l'Apocalypse de Jean, la perspective est différente. Elle montre que par l'assurance en Jésus-Christ, Dieu est déjà à l'œuvre pour le salut de son peuple. Il est déjà à l'œuvre pour le salut de son peuple. Dans les trois chapitres qui précèdent le passage que nous venons de lire, nous voyons l'apôtre Jean, coincé en exil au beau milieu du Nil. Et je vous arrête tout de suite, on ne parle pas de Hawaï ou des îles Canaries là. C'est l'île de Patmos, tout proche de la Turquie, un petit peu moins pépère. Et sur cette île de Patmos, Jean y reçoit une vision. Il y voit son ami de longue date, Jésus. Mais pas comme il a l'habitude de le voir, il le voit différemment. Il le voit dans son corps glorifié. Et rien qu'à la vue de Jésus dans toute sa splendeur et dans toute sa majesté, Jean s'écroule par terre, comme mort. Jésus le relève alors, le rassure et l'invite à transmettre un message pour les 7 églises de la région. Et à la suite de cela, nous arrivons à notre passage du chapitre 4. Jésus l'invite maintenant à monter avec lui à travers une porte. On peut imaginer 7 portes. Et c'est une porte qui permet d'aller dans une autre dimension. Un peu, pour ceux qui connaissent, comme dans le Jumanji. Non ? D'accord. Stargate SG1, peut-être. Non plus. Bon, bref. Cette porte nous emmène dans la dimension de l'invisible. La dimension où se trouve le temple céleste. Dieu avec toute sa cour. Une dimension pourtant si réelle qui se passe en même temps que je vous parle. Alors, imaginez cet homme, Jean, un simple pécheur qui se retrouve tout d'un coup à voir le trône de l'Éternel. Et il va tenter, avec son vocabulaire d'homme, de simple homme, de décrire ce qui est indescriptible, de donner des mots à ce qu'il n'en a pas, de faire imaginer ce qu'aucun homme ne pourrait imaginer. Alors, je vous invite à venir jeter un œil avec moi, avec Jean, à travers cette porte ouverte. Alors venez, montez, et voyez par vous-même. Et quel spectacle, quelle scène. La première chose que l'on voit en regardant à travers la porte, c'est le trône céleste. La manière dont ce trône est décrit est un petit peu intriguant, car en fait, on n'a aucun détail sur l'apparence ou sur la forme de l'être qui s'y trouve. Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est un ange ? Est-ce que c'est Dieu ? Mais à quoi ressemble Dieu ? La seule chose qui nous est décrite est son aspect, les lumières et les couleurs qui s'en dégagent. Et Jean utilise des images de pierres précieuses. Alors ça ne veut peut-être pas nous dire grand-chose parce que bon, on ne voit peut-être pas des pierres précieuses tous les jours. Mais ça peut nous donner une référence. C'est comme si le halo lumineux de splendeur et de gloire nous empêchait de voir les limites de Dieu. C'est un peu comme quand on essaye de regarder le soleil en plein jour de face, comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça. C'est impossible. C'est impossible de délimiter sa surface sans se brûler les yeux. Car notre Dieu est bien infiniment grand. Et quelle que soit la conception que vous avez de Dieu, maintenant, ce n'est pas suffisant. Ce ne sera jamais suffisant. Vous pouvez utiliser tous les superlatifs que vous voulez. Ce ne sera jamais suffisant. Et pourtant, Dieu se révèle à nous à travers cette vision. Et nous y voyons de la beauté, nous y voyons de la gloire, nous y voyons de la puissance. Il y a même des éclairs qui sortent du trône. On entend le tonnerre. On a tous vécu, je pense, un orage si puissant qu'on en a eu peur. C'est fou, toute la lumière qu'un éclair peut envoyer, un éclair qui traverse le ciel en un millième de seconde. Et le tonnerre. Ce vacarme, telle une explosion qui nous fait sursauter et fait trembler tout notre corps. Voilà ce à quoi ressemble le trône céleste de Dieu. Voilà ce à quoi ressemble sa toute-puissance, sa majesté et sa gloire. Et même cela, ce ne serait pas suffisant pour décrire complètement la réalité. Je ne sais pas ce que vous ressentez en imaginant cette scène, mais je pense qu'on peut essayer d'imaginer ce que les destinataires premiers de cette vision ont dû ressentir. Eux, les chrétiens de la région d'Asie mineure, en pleine vague de persécution à la fin du 1er siècle, ils vivaient l'épreuve, ils vivaient parfois même la mort. Ils ont perdu leur travail pour certains, ou même pire, leurs proches, à cause de leur foi. Mais cette faiblesse n'est rien face à la puissance et à la grandeur de Dieu. Voilà l'un des messages principaux de ce texte. Voilà l'un des messages principaux de l'Apocalypse. Dieu est majestueux et il règne. Il règne dans les cieux et il est notre puissance à nous qui sommes dans la faiblesse. Alors, après nous être concentrés sur le trône de Dieu, je vous propose de nous écarter un petit peu, de faire un pas en arrière. Et ce pas en arrière nous permet de voir qu'autour de ce trône, il y a 24 autres trônes. Et sur ces 24 trônes, 24 anciens, habillés tout de blanc, et portant une couronne d'or. Alors, qui sont ces 24 anciens? Ce n'est pas une question facile. Certains pensent que ce sont les représentants du peuple de Dieu, les 24 étant les 12 patriarches de l'ancienne alliance, plus les 12 apôtres de la nouvelle alliance. 12 plus 12, 24. Laurie, c'est bon? D'autres pensent que ce sont des anges supérieurs, ayant une certaine autorité donnée par Dieu. Et les quatre êtres vivants, qui sont-ils? Celui qui ressemble à un lion, celui qui ressemble à un taureau, celui qui ressemble à un homme, à un aigle. Alors non, pour ceux qui doutent, désolé, ce ne sont pas des Pokémon rares, rangez vos Pokéballs, et je ne regarde personne. Certains commentateurs y voient des êtres célestes spécifiques et d'autres y voient à nouveau des représentants de l'ensemble de la création. Quoi qu'il en soit, une seule chose importante ressort de ces détails. Leur rôle est de donner toute la gloire à celui qui est sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Et c'est exactement ce qu'on voit au verset 9 quand on le relit. On peut lire « Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adore celui qui vit au siècle des siècles et dépose leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Quand on y pense, leur réaction est tout à fait logique. Elle est tout à fait naturelle. On voit dans tous les récits bibliques où il y a une vision de la présence divine que la réaction est toujours la même. On se prosterne face contre terre. Ézéchiel, au chapitre 1, voit la gloire de l'Éternel. Et que fait-il ? Il tombe visage contre terre, nous dit le texte. Paul, l'apôtre Paul, voit le Christ glorifié sur le chemin de Damas. Et que fait-il ? Il tombe par terre. Moïse se cache les yeux. Jean, au chapitre 1 de l'Apocalypse, tombe comme mort. Car oui, face à un Dieu si grand et si glorieux, la seule chose logique à faire est de lâcher prise, de renoncer à soi-même et de se prosterner. La meilleure réaction à avoir, c'est de se prosterner devant l'Éternel, de lui offrir nos vies, de lui offrir nos couronnes. En fait, ce qui est surprenant, c'est que on a l'impression que, dans la description que nous fait Jean, que tout tourne finalement autour du trône. Quand il parle des 24 anciens, quand il parle des 4 êtres vivants qui sont autour, des éclairs, des lampes ardentes, tout ça, c'est pour montrer la louange qu'ils adressent à Dieu. Il y a comme ce point qui se concentre dans le tableau, qui nous amène vers Dieu. Et je pense que cela nous rappelle quelque chose d'indispensable. Notre vie, le monde, la création, l'église de Melun, tout ça n'est pas à propos de nous. C'est à propos de lui. Peut-être qu'il nous arrive parfois de vivre dans un espèce de monde de Disneyland où tout va bien pour nous, où tout le monde s'intéresse à nous. Ce qui est important, c'est que nous nous développions. C'est que nous vivons une vie chrétienne paisible et enrichissante. Mais dans la vraie vie, la réalité est tout autre. Tout est centré, finalement, sur lui. Et il est bon, parfois, de nous remettre dans cette perspective. Le psaume 115, verset 3, qu'on cite peu souvent, dit « Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Car Dieu est tout puissant. Il maîtrise toute chose. Le battement de notre cœur ne tient qu'à lui. Alors la question qui vient, forcément, c'est sur quoi est centré notre quotidien, jour après jour? Sur qui est focalisé nos projets, nos attentions? Pour qui est-ce que je me lève le matin? centrer sa vie sur Dieu a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup de désavantages. D'un côté, on va devoir lâcher les choses. On va devoir porter notre croix. On va devoir peut-être renoncer à notre confort. Mais de l'autre, nous aurons l'assurance d'être épaulés par le grand Dieu, celui qui est sur le trône dans les cieux. Et aux chrétiens, tout jeune converti vivant à Rome dans les années 90 après Jésus-Christ, sa foi pouvait lui risquer sa vie et tout ce qu'il aimait. Mais à travers ce texte, il y voit la réalité de la dimension invisible, celle du Dieu majestueux, capable de toute chose. Un Dieu qui maîtrise les âges. Et il reviendra victorieux pour établir son royaume sur terre. Et nous, aujourd'hui, en 2016, dans nos situations, dans nos contextes, après cette accumulation d'attentats tragiques, nous pouvons tenir fidèlement à lui et persévérer. Non pas parce que nous sommes forts, mais parce que lui l'est. Le portrait que nous venons de décrire ne serait pas si fidèle si nous ne parlons pas du reste des personnages, et notamment deux qui jouent un rôle essentiel. Premièrement, on parle des sept lampes ardentes, au verset 5, qui nous sont présentées comme les sept esprits de Dieu. Alors, pourquoi sept ? Est-ce que Dieu a sept esprits ? Le sept représente symboliquement la complétude, la perfection, la totalité. C'est une manière de dire le Saint-Esprit. Mais c'est aussi le Saint-Esprit présent dans la vie des croyants, dans la vie des sept églises du chapitre 3. Et ce texte nous montre un Dieu qui est si glorieux, si grand, et pourtant, un Dieu qui est si proche de nous, dans l'intimité, à travers son esprit. Un Dieu glorieux dans les cieux et un Dieu en nous, avec nous, par son esprit. Quelle grâce! Enfin, un dernier personnage joue un rôle clé. Une personne sans qui nous n'aurons pas accès à cette porte. Une personne qui nous amène pour que nous puissions voir, pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions vivre. Vous l'avez bien compris, c'est Jésus-Christ. C'est notre médiateur, notre chemin, notre vérité et notre vie, celui par qui nous accédons à travers son sacrifice à la croix et sa résurrection, à notre Dieu si grand, qui nous montre aussi, et nous l'avons chanté, qui nous aime tant. Ce Jésus, dans le chapitre 5, recevra l'honneur, recevra la gloire avec son Père et viendra établir le royaume que nous attendons tant. Jésus revient. Je ne sais pas ce que vous a inspiré ce texte, mais pour ma part, il m'a fait du bien. Il m'a fait redécouvrir que notre Dieu est tout-puissant, qu'il est glorieux et qu'il est infiniment grand. Et on peut avoir tendance à oublier cette réalité. Ce Dieu, je peux lui faire confiance dans mes difficultés, même si je passe par des moments difficiles. Car si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il me rappelle que Dieu est le centre, dans ma vie, dans l'Église, dans le monde, et qu'un jour, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce texte est une bouffée d'air frais dans notre réalité et nous rappelle les vraies priorités, ce qui compte. Alors, allons régulièrement voir à travers cette porte et rappelons-nous ce qu'il y a derrière. Amen.